Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Tchernia, fondateur d'Equateur, le fournisseur d'énergie renouvelable.
Bonjour.
Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci, moi aussi.
En marchant, j'ai écouté, je te cherchais sur YouTube pour un petit peu connaître le secteur d'activité, parce que c'est vrai que l'énergie, d'ailleurs, tu vas nous en parler, tout le secteur de l'énergie, c'est assez compliqué en fait de comprendre ce qu'est l'énergie verte. Et toi d'ailleurs, tu vas m'en parler, puisqu'il y a une différence entre fournisseur et producteur, voilà. Donc toi, tu es fournisseur.
Exactement. Donc nous, en fait, la base d'Equateur, c'est que le monde n'est qu'énergie. On pourra détailler un petit peu ça après, si tu veux. Et donc, pour sauver le monde, il faut changer l'énergie. Et il y a deux moyens de le faire, soit la production, soit la fourniture. Alors nous, notre métier, c'est pas la production. On sait pas fabriquer des grosses centrales éoliennes ou des gros parcs solaires. Ce qu'on sait faire, c'est donner envie aux gens d'acheter de l'énergie renouvelable et de changer leur manière de consommer l'énergie chez eux.
Aujourd'hui, les producteurs et fournisseurs, ceux qui font les deux, il y a EDF.
Oui, alors historiquement, le métier est intégré. C'est-à-dire que tous les gros fournisseurs, ceux qui sont plus gros que nous sur le marché, EDF, Engie, Total, Eni, leur vrai métier, c'est la production. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent de l'énergie, puis ensuite, ils la vendent. Et avant, effectivement, EDF était en monopole.
Avant, c'était en 90, avant 90, c'était le monopole. Hein, avant que ce soit ouvert aux autres gros.
Voilà, la fin du monopole, c'est 99 pour les gros professionnels. Et puis, petit à petit, ça s'est ouvert complètement jusqu'en 2007, où le marché a été ouvert pour les particuliers et les professionnels en gaz comme en électricité.
Oui, mais Jamie, il a dit qu'avant 90, il n'y avait que EDF, je te dis.
Mais oui, tout à fait, une super vidéo. Et c'est Fred, en fait, hein, c'est pas Jamie.
Bah oui, mais les deux, je les confonds. Bon, d'accord, donc très bien. Et alors, toi, Equateur, tu l'as fondé en quelle année?
Donc, Equateur, on l'a fondé avec Jonathan, mon associé, en 2015. C'était en novembre 2015 et on a commencé à bosser dessus dans ma chambre de bonne le 1er septembre 2015.
Tu faisais quoi avant?
Avant, j'étais le directeur pour la France d'une boîte belge qui était fournisseur d'énergie aussi, d'énergie verte, qui s'était lancée en France et puis m'avait recruté comme directeur France. Là, j'ai eu la chance de recruter quelqu'un de formidable qui s'appelle Jonathan Martelly et qui est devenu mon associé maintenant. Et à nous deux, on avait bossé chez eux pendant 2 ans et demi pour ensuite être en désaccord, on va dire, avec là où on voulait aller avec les fondateurs. Et on a compris après, en fait, Total a racheté l'Empiris un an après qu'on les ait quittés. Donc, c'est pour ça que les fondateurs, ils pensaient à autre chose. Et c'est pour ça qu'on a bien fait de quitter pour créer Equateur.
Mais du coup, t'as toujours été dans l'énergie ou avant, tu faisais autre chose?
Alors, absolument pas. Moi, je suis ingénieur télécom. D'accord. Au départ. Et puis, j'ai eu envie d'énergie assez vite, on va dire, à partir des années 2000. Et tant et si bien que, il y avait aussi une volonté de quête de sens, il y avait une volonté, j'avais une très très belle carrière dans le conseil en télécommunication, mais en 2007, j'ai tout lâché pour faire une formation dans l'énergie, avec l'idée de créer une boîte qui créerait du business, puisque ça c'est quelque chose qui pour moi est important pour une société, et qui en même temps irait dans la direction de ce en quoi je croyais déjà, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique.
Quelle année déjà?
Ça c'était en 2007, donc j'ai tout lâché en 2007 pour me payer ma formation.
J'ai une quête de sens à l'époque. Moi, bon, à l'époque, entre guillemets, c'est longtemps, mais j'avais 17 ans, donc pour moi, c'est à l'époque.
Voilà, moi, j'avais presque 17 ans aussi. Non, mais oui, c'était à l'époque. Et je suis sorti en octobre 2008, et c'était la crise financière. Donc, j'ai pas du tout trouvé d'argent pour créer ma boîte. Et puis après, la vie, il faut quand même manger, il faut retrouver... Et je n'ai réussi à rentrer dans l'énergie qu'en 2013 et à créer ma boîte qu'en 2015. Donc c'est un message d'espoir pour tous ceux qui pensent qu'être start-upper, il suffit d'avoir 20 ans et qu'après c'est trop tard et qu'il faut démarrer tout de suite. Ben moi j'ai fait sur le temps long, puisque j'ai eu l'envie en 2007 et je n'ai réussi à mettre en œuvre mon projet qu'en 2015.
Moi j'ai un autre message d'espoir, c'est qu'on peut faire du business responsable et justement du business, comme tu le dis très bien, à juste titre, c'est que tu voulais faire du business, mais tout en étant engagé. Donc moi voilà, autre message d'espoir, c'est qu'on peut réussir à en faire. Et donc aujourd'hui, Équateur, Parlement de façon plus large.
Équateur, on est donc la première mission, c'est de vendre de l'énergie renouvelable aux Français, hein, chez eux, dans leur maison, électricité et gaz. On a été les premiers à fournir une offre de biométhane pour les particuliers. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire qu'on a commencé sur le marché en septembre 2016, puisqu'on a pris du temps pour mettre en place la plateforme informatique et préparer le service client. Que pour nous, les valeurs importantes, en plus de l'écologie, sont la transparence et la proximité. On pense que dans ce secteur, il y a eu beaucoup d'opacité, pas par volonté, je suis pas un complotiste, mais parce que les gens le savaient, il y avait les sachants, et ils avaient pas envie de prendre le temps d'expliquer les choses aux gens, pour ça que ça paraissait compliqué, et ils avaient envie de prendre leur décision tout seul. Donc nous on a dit non, c'est le client qui doit choisir, et c'est à nous de lui donner les clés pour le faire, et faire des choix pour le convaincre que les choix auxquels on croit sont les bons. Et ben ça a bien marché, hein, puisque donc maintenant... ça fait 3 ans et demi et on a 220 000 compteurs, ça veut dire 150 000 clients. On est passé de rien à 5e fournisseur français, premier des alternatifs. C'est bizarre pour un fondateur, hein, d'aller aussi vite, de passer de sa chambre de bonne.
La demande, tu l'as vu évoluer, la demande aussi, non ?
Alors, on a vu la demande évoluer beaucoup cette année, en 2019 en fait, où nous, on a deux produits, un produit classique, offre renouvelable classique, et un produit un peu plus premium avec des petits producteurs locaux qu'on va sélectionner en France. Et c'est un produit qui est plus cher et qui dont la demande a explosé en 2019. C'est-à-dire qu'on a 3 fois plus de demandes pour ça fin 2019 que début 2019. C'est probablement l'effet Greta Thunberg et les gens qui prennent conscience que maintenant il faut faire quelque chose et quand ils en ont l'opportunité, ils le font.
Et le marché était compliqué à installer puisqu'il y avait quand même les gros initialement présents. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs, d'autres micro-acteurs, on va dire un peu comme toi, d'autres start-upers, d'autres petites entreprises qui tentaient de faire du responsable, du renouvelable ?
Alors quand on a eu l'idée, il y avait deux petites sociétés. Et puis quand on s'est créé, il y en a eu d'autres qui se sont créés en même temps, donc maintenant il doit y avoir une dizaine de startups. Il y en a beaucoup qui sont pour l'instant encore en phase de pré-croissance, et donc on a réussi nous à passer une belle étape avec ces 220 000 compteurs. Après chacune a son point de vue particulier. Il y en a une qui est connue, qu'on aime bien.
C'est compliqué de se différencier sur ce marché-là, mais je pense qu'entre vous vous encouragez.
Alors nous,
ces micros plutôt que de se taper dans les
c'est exactement ça. Enfin, dans un village de Schtroumpfs, quand il y a Gargamel et Azrael, c'est pas la peine d'aller se battre entre Schtroumpfs.
Après Fred et Jamie, tu me sors les Schtroumpfs, j'adore définitivement.
Je pense par exemple à Enercoop, qui est une société
On va les avoir d'ailleurs.
Qui est une coopérative, donc c'est pas du tout le même état d'esprit que nous qui sommes une SAS. Par contre, voilà, on a la même volonté, deux manières différentes de le faire. Ça permet aux gens de choisir. La base d'Équateur, c'est le choix. Tant mieux.
Bien sûr, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et quelle est la part du renouvelable aujourd'hui dans le secteur de l'électricité ? Il y a encore beaucoup de nucléaire ?
Alors, en France...
Les énergies fossiles, beaucoup moins, j'ai l'impression, non ?
Oui, donc en France, sur la production renouvelable, on a 17%. En fossile, on doit être à 10-12%. Et par contre, sur l'achat...
Pas si loin du fossile, quand même.
Non, il y a encore du gaz et du charbon qu'on importe. Parce qu'on importe d'Allemagne, on fait pas qu'exporter. Et derrière, il y a ça c'est au niveau de la production. Au niveau de la fourniture, par contre, il y a beaucoup moins. C'est-à-dire que seulement 3 à 4% de la population française a choisi pour l'instant le 100% renouvelable. On est très habitué à l'opérateur historique, quelque chose qui est assez difficile de s'en détacher. Hein, c'est le Conseil national de la résistance, c'est l'indépendance énergétique française, le service public, ça n'est plus un service public, l'opérateur historique n'est plus un service public, mais ça reste l'idée. Le général de Gaulle, enfin c'est tout un symbole qui est très très national.
Ils proposent pas du tout de renouvelable et ils proposent pas du tout ce type d'offre.
Alors depuis un an, ils ont une offre 100% renouvelable. comme quoi le marché est plus efficace que la régulation.
Puisque la demande est là.
La demande est là, les concurrents l'ont fait, Engie l'a fait, donc à partir de là, ils se sont dit on va le faire aussi. Après, c'est pas quelque chose qu'ils mettent en exergue beaucoup, mais ils ont une offre maintenant, tout à fait.
Et ils sont jamais intéressés à vous ? Ils ont jamais essayé de faire de trouver des synergies ? Non, c'est plutôt vraiment de la concurrence pure.
Ça a été très difficile quand on a démarré Équateur de trouver des incubateurs dans lesquels il n'y avait aucun des deux opérateurs historiques. Oui. Très difficile. Et c'est ce qu'on a fait. C'était notre choix. Donc ce choix reste le même aujourd'hui.
Et donc là, implanté nationalement, mais du coup international peut-être ou jamais?
Peut-être. J'ai habité longtemps en Belgique, en Italie, en Pologne.
Ah, Italie.
Et con piacere andremo in Italia, però.
Ah, sì.
et de la Tchegoniev Polse.
Donc, c'était la minute de traduction, Google Trad. Vous pouvez ouvrir Google Trad en même temps.
Donc, voilà, non, je suis très, très européen dans l'âme.
T'aimerais du coup plus déjà l'Europe, peut-être?
On verra.
Déjà, le marché français, ouais. Il y a encore pas mal de choses à faire, puisque quand on voit 17%, c'est quand même pas énorme. Donc, comme quoi, même si par contre, la dynamique est vraiment là. Après, c'est vrai que ceux que j'écoute et ceux avec qui je partage les choses sont des gens engagés, des personnes engagées, mais je trouve que la demande est là. En fait, quand la demande est là, les marques doivent s'ajuster et on peut même faire du business responsable. Et quelles sont les prochaines actions
Nous, côté Équateur, ce qui compte maintenant, c'est d'aider les gens à consommer moins. Parce que c'est le gros avantage qu'on a par rapport à nos concurrents qui sont producteurs. Si vous êtes producteur de tomates, dans votre magasin, vous allez mettre des tomates. Et même s'il y a des tomates vertes et des tomates rouges, vous allez pousser les gens à manger les tomates. Nous, finalement, on gagne très très peu d'argent en vendant de l'énergie. On gagne l'argent surtout sur l'abonnement, puisque notre métier, c'est de gérer le client, de lui faire des factures. Et donc, vendre une économie d'énergie, pour nous, d'un point de vue business, c'est plus rentable que vendre de l'énergie. Pour le client, c'est beaucoup moins cher. Et pour la planète, c'est mieux.
Donc, les bonnes pratiques, quoi.
Donc, les bonnes pratiques. On a un business model vertueux. Maintenant, ce qui reste, c'est de trouver les outils pour le faire. Et donc, ce sont des boîtiers qui vont aider à mieux contrôler
s'arrêter,
sa consommation.
Par exemple, s'arrêter en octobre, comme parfois ils le font dans les immeubles, là, à Paris. Parfois, en octobre, on n'a plus de chauffage pour en avoir eu les frais. Et alors qu'il faisait moins 10 dehors, mais
fermer les fenêtres, là.
Voilà, à ce moment-là, on a des petits problèmes. Non, mais je pense que c'est aussi une façon de faire. On avait eu Béatrice Mandine d'Orange dans le podcast qui nous disait qu'en effet, eux, ce qu'ils essayaient de faire, c'est de sensibiliser les consommateurs aussi à la réduction du temps d'écran, le tri dans la boîte mail, etc. Donc vous, finalement, vous êtes aussi des porte-parole de...
On va au-delà de porte-parole. Au-delà de porte-parole, parce que donc ça,
vous
on
allez
le fait
bloquer les boîtiers.
Oui, on le fait depuis le début, mais l'idée c'est d'avoir un instrument qui puisse commander ça à distance, qui puisse être programmé et qui évite que les gens aient froid en octobre parce qu'on a coupé au mauvais moment. Par contre, qui évite qu'ils aient trop chaud en janvier parce que il fait 24. Et de la même manière, on a aussi.
Oui, en fait, ça peut s'adapter au climat extérieur.
C'est ça.
Ah, c'est génial.
C'est le top de ce qu'on a vu. Nous, on n'est pas les fabricants, donc on analyse les produits, puis après on les propose à nos clients. C'est des boîtiers qui vont voir la réaction de votre appartement par rapport à la température extérieure, au vent. Par exemple, vous avez un appartement qui est très très sensible au vent du nord. Dans ces cas-là, s'il sait que c'est à 7 heures que vous levez et qu'il faut qu'il fasse 20 degrés à 7 heures, comme il y a vent du nord aujourd'hui, je vais chauffer dès 6 heures. Par contre, s'il voit qu'il n'y a pas de vent du nord et qu'il y a beaucoup de soleil et que vous êtes très exposé au soleil, eh ben il chauffera qu'à partir de 7h-10. Donc vous avez 50 minutes d'économie d'énergie quand la météo le permet, plutôt que de faire des choses à un moment fixe.
Il y a quand même une synergie avec tout ce qui est objet connecté, finalement.
Voilà, exactement, et lier la consommation d'énergie avec des objets connectés.
Super.
Et puis deuxième chose qu'on fait, c'est l'autoconsommation, c'est-à-dire aider les clients à devenir producteurs.
Comment tu fais ça?
Je leur vends des petits panneaux solaires.
C'est génial.
Donc, tout simplement, on a lancé ça cet été. Ça a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ils peuvent mesurer la quantité qu'ils ont...
Exactement. Donc,
comme on aime bien les challenges, on se dit, tiens, là, je vais essayer de recycler.
C'est combien j'arrive à consommer de ma propre électricité.
C'est génial. Ils peuvent redistribuer de leur électricité aux autres ou pas? Oui. Ceux qui n'ont pas consommé.
Oui, donc on a été les premiers à racheter l'énergie des clients, même hors obligation d'achat, et pour le surplus. Et puis, on travaille maintenant sur un système avec une blockchain qui leur permettra de le distribuer à qui ils veulent.
C'est génial. Donc, il n'y a pas de perte.
Il n'y a pas de perte. Et puis surtout, voilà, vous êtes parents, vos enfants sont partis étudier à Paris, vous avez une grande maison dans le sud avec des panneaux. Ben, vous dites, tiens, toute l'électricité que je produis en plus, elle est gratuite pour toi, parce que ben, ça sert à rien de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc, tous ces systèmes-là, on veut les mettre en place.
Ben, super. Et toi, tes engagements en tant que comme au quotidien, t'es quelqu'un de très écolo, bio.
Au quotidien, je suis quelqu'un de.
T'es venu à pied déjà, tu m'as dit.
Donc, je suis venu à pied, j'ai pas de voiture. Je mange toujours de la viande. Par contre, on fait attention à tout. J'achète très peu de vêtements et je couvre mes casseroles et je fais très attention au chauffage. Non, c'est un engagement qui est, je pense, viscéral. Mes enfants même commencent à se lasser. Hein, ça suffit, papa écolo. Et parce que je les embête pour ça. La grande idée, mon idée personnelle, c'est qu'on ne changera le monde qu'en donnant envie aux gens. Et pas en les brimant et pas en leur obligeant.
Donc, on a la même dynamique.
Voilà. Et donc, il faut que son comportement change. Donc, par exemple, moi, je buvais toujours l'eau du robinet. Ma compagne voulait des bouteilles d'eau. Il a fallu trouver une alternative. On a trouvé un système qui permet d'avoir un robinet filtré. Donc, on n'a plus de bouteilles à la maison. Par contre, elle aussi, elle a l'eau filtrée qui lui convient. Donc, c'est à nous de trouver des solutions pour que on avance dans le bon sens sans que les gens perdent trop en confort. Parce que sinon, ça va rater. On peut pas demander aux gens, à la masse, de se sacrifier. On peut arriver à faire qu'une petite partie de la population fasse des efforts énormes. Mais ça sauvera pas le monde, ça. C'est pas parce que 50 000 personnes arrêtent de manger de la viande que le monde va être sauvé. Et puis, il y a aussi une complexité auquel on veut répondre chez Équateur. C'est quel est l'impact de quelle action? Donc, je parle à nouveau de l'alimentation ou des vêtements, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Je vais faire un effort. Je vais m'acheter un slip, des slips français. Un pyjama. C'était mon anniversaire samedi.
Coucou Guillaume, si t'écoutes le podcast, ouais, tu peux en envoyer un.
Merci Guillaume, j'en ai eu un, mais j'en veux bien un deuxième. Et puis, j'ai perdu le fil. Là.
Tu nous parlais des slips et des pyjamas, non mais.
Ouais, non mais donc on fait un effort sur ça, et on va pas faire d'effort sur le chauffage, par exemple. Parce qu'on n'en a pas conscience. Or, dans un foyer, c'est 70% de l'énergie consommée. Et c'est beaucoup moins contraignant de mettre un thermostat qui fait que quand vous n'êtes pas là, le chauffage se coupe, plutôt que de décider de plus jamais acheter de pantalons en cuir ou de manger de la viande. Et l'impact est pourtant beaucoup plus positif à changer l'énergie. Donc, c'est aussi à nous, spécialistes de l'énergie. C'est plus compliqué que le bon sens, puisqu'il y a toute la chaîne, donc le pull en laine, il a fallu quand même élever des moutons, donc finalement, manger une merguez ou un pull en laine, qu'est-ce qui est le pire?
Comme les véganes qui vont s'habiller chez eux. Je sais pas si c'était une marque. Non, là, ça va être des gens qui ne mangent plus de viande pour protéger les animaux et qui vont mettre des pulls en laine, etc. Donc ça, je suis entièrement d'accord.
C'est
avec,
ça. Mais c'est pas simple à savoir.
Bah non, bien sûr que non, mais il faut aller au bout de ses engagements. C'est pour ça que le plus simple, c'est de faire un peu mieux. D'essayer de s'améliorer sans combattre de façon très très forte sans tolérer aussi les différences. Moi par exemple, je ne mange pas de viande, mais je tolère les gens qui en mangent, ils en mangent à ma place et voilà. Je sais pas, mais je pense que je suis entièrement d'accord avec toi, surtout la dynamique positive, inspirer, ne pas blâmer.
Et donc je pense que c'est à nous aussi spécialistes de l'énergie de faire ces calculs pour que les gens puissent faire leur choix et que chacun fasse un effort dans la bonne direction.
Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses?
Merci.
Ben merci à toi. J'étais ravie. En plus, j'ai découvert plein de choses et puis j'ai écouté. Je suis retombée en enfance entre les Schtroumpfs et C'est pas sorcier. Donc merci. Puis j'ai découvert pas mal de choses sur le secteur de l'énergie. En fait, je n'y connaissais rien. Enfin, je n'y connaissais rien. Si, je connaissais un minimum, mais c'est assez passionnant en fait. Donc je comprends pourquoi tu as. Ça fait longtemps maintenant. C'est combien de temps d'ailleurs que tu es dans ce secteur? Ça va faire.
Sept ans.
Sept
ans et plus mon master, ça ferait 8. Mais 8 étalé sur 13 ans.
Ouais, donc tu vois, je comprends pourquoi t'as été piqué par ça. Bah écoute, j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.
Merci, au revoir.